Pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une médaille d'or. Johan Diniz a remporté le 50 km marche, Franck Ballanger.
Au 40 km pourtant, Johan Diniz possédait 38 secondes de retard sur la tête de la course. Et puis ensuite, tout s'est inversé. Johan Diniz, le Rémois, s'impose finalement devant Jesús Ángel García, l'Espagnol, et Yuri Andronov, le Russe. Le temps du Français, 3h41 minutes 39 secondes. Nouveau record de France pour le Français qui bat le record établi par Thierry Toutain. C'était en 1994 à Helsinki, en Finlande, lors des championnats d'Europe. Une performance qui avait, à l'époque, permis à Thierry Toutain de prendre la médaille d'argent. Johan Diniz, donc, quatrième médaille pour l'équipe de France, troisième médaille d'or, après celle de Mehdi Bahala hier sur 1500 mètres, et celle de Marc Raquil sur 400 mètres. Göteborg, Franck Ballanger, France Inter.
Et à Göteborg, trois Français viennent de se qualifier pour la finale du saut à la perche. Romain Ménil, Daniel Dossévy et Vincent Favrito. Et on part maintenant à la Bourse de Paris. On retrouve Cédric Decoeur. Et Cédric, le CAC 40 est en baisse.
Eh bien oui, Céline, coincé entre les incertitudes liées à la politique monétaire, les inquiétudes géopolitiques, sans oublier les menaces terroristes, eh bien les marchés d'actions ne savent plus trop à quel sein se vouer. Dans ce contexte, le CAC 40 évolue dans le rouge depuis l'ouverture. L'indice cède actuellement 1,5% à 4 949 points dans un volume d'affaires qui approche les 2,5 milliards d'euros négociés sur l'ensemble des valeurs du SRD. Ailleurs, sur le vieux continent, les places sont toutes dans le rouge. Francfort, moins 95, Londres, moins 28 et l'euro First 80 moins 1,51%. Enfin, sur le marché des changes, l'euro se négocie contre un dollar 28,63 en baisse de 0,12% face à la devise américaine. Voilà, Céline, je vous rappelle, le CAC 40 moins 53% à 4 948 points à la Bourse de Paris. Pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
France Inter, 14h04, l'heure de l'Afrique enchantée avec Vladimir Cagnolari et Soro Solo.
Merci Céline Aslo, on vous retrouve dans une heure pour les infos. Nous, on va s'éclaircir la voix, tâcher de la faire la plus claire possible, la plus belle, parce qu'on va aujourd'hui chanter les louanges du pouvoir. Et franchement, j'espère qu'on sera bien rétribué.
Coco, hey, viens là. C'est l'Afrique qui frappe à la porte. L'Afrique enchantée.
Oh yeah.
Vladimir Cagnolari, Solo Soro, yeah. De 14h à 15h sur France Inter.
Bonjour et bienvenue dans notre Afrique enchantée. Comme tous les jours ouvrables, nous vous convions à un voyage sur le continent africain, un voyage en musique bien sûr, aujourd'hui consacré aux louanges du pouvoir en Afrique. Et oui, parce que comme on vous le raconte depuis plus d'un mois, la musique sur le continent a des allures de divertissement certes, mais elle est aussi et peut-être surtout un média. Et les politiques de tout poil l'ont bien compris puisqu'ils s'attachent les services des chanteurs pour asseoir leur popularité ou bien plus souvent encore distiller leur propagande. Alors suivez-nous, aujourd'hui nos chanteurs brossent dans le sens du poil et nous, on rase gratis. Et comme tous les jours, pour nous accompagner dans ce périple cousu d'éloges, pour vous raconter la vie des cireurs de chaussures à boucle d'or des dirigeants d'Afrique, le chef, le guide, le président fondateur de l'amicale des Sénoufos rigolards, j'ai nommé Sa Majesté Soro Solo Ier, le maître créateur. Bonjour, Majesté.
Bonjour.
Quoi, c'était pas suffisant comme louange ?
Ouais, mais... Tu aurais pu faire mieux quand même.
Bon, je reprends. Alors, avec moi pour vous accompagner aujourd'hui, l'Empire State Building d'Abidjan, celui qui peut verser plus d'histoire qu'un oléoduc saoudien, le sommet de l'Himalaya, le bras droit et le bras gauche de Dieu le Père lui-même, le mythe vivant, Soro Solo.
Ah, ok. C'est bon, Vlad. Ça devrait aller maintenant.
Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Mais il y en a qui font ça encore mieux que moi.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au nom de Messieurs Joseph Kasavubu, Président de la République du Congo, Messieurs Adoula, Premier ministre de la République du Congo, Messieurs Zizenga, Vice-Premier ministre de la République du Congo, Messieurs Bomboko, Ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, Messieurs Ileyo, Ministre de l'Information de la République du Congo, et le général Mokoutou de l'armée nationale congolaise, nous vous offrons un tcha-tcha-tcha intitulé Kubaila Begen. Merci. Au revoir. Chope.
Kassaboubou.
Tcha-tcha la Begen, tcha-tcha.
Gouvernement Yabongo, composé par le Congolais de piano au début des années 60, et c'est sur la compilation Souvenir Ya Indépendance. Et cette compilation réunit des chansons des toutes premières années de l'indépendance congolaise.
Gouvernement Yabongo, tu dis toi Bongo en Lingala, c'est la tête, c'est gouvernement de la tête. Gouvernement Ya Congo, toi aussi.
Ah, gouvernement Ya Congo, merci pour ta leçon de Lingala.
En tout cas, vous avez entendu que les principaux membres du gouvernement congolais sont cités au début de la chanson, et puis après pendant toute la chanson même. Et grâce à ça, d'ailleurs, on peut se rendre compte à peu près à quelle époque elle a été faite, puisque dans la liste des membres du gouvernement, on n'entend pas le nom de Patrice Lumumba, le premier ministre du Congo indépendant. Donc lui, on sait déjà qu'il n'est plus premier ministre. Et en fait, la chanson date de fin 60. Donc il a été démis de ses fonctions, il n'est pas encore assassiné, ça sera début 61. Et Mobutu, qu'on entend citer, et à l'époque chef d'état-major, mais lui pas encore président. C'est en 65 qu'il va prendre le pouvoir et s'installer durablement. Durablement, on peut le dire, puisque ce sera pour 32 ans. Et en 1970, donc 5 ans plus tard, il instaure le parti unique, le MPR, ou Mouvement Populaire de la Révolution, et décide de lancer sa propre révolution culturelle qu'il appelle la zaïrianisation. Donc en 71, il décide de débaptiser le Congo pour l'appeler Zaïre. Le franc congolais, la monnaie, devient elle aussi le Zaïre. Et cette révolution, bon, vous l'avez peut-être deviné si vous ne connaissez pas bien l'histoire du Congo, mais elle se joue surtout dans les formes, car fondamentalement, le pays reste une dictature soutenue par le bloc de l'Ouest et entretient des relations diplomatiques, économiques avec les pays occidentaux. Mais la zaïrianisation, y compris dans les formes, va plus loin jusque dans les modes vestimentaires imposés par Mobutu.
Petit frère, tu es trop fort. Mais parce que effectivement, c'est le mot d'un... Le vêtement, Mobutu a imposé ce qu'il a appelé l'abacoste. Mm-hmm. Et l'abacoste, c'est la contraction de abat, le costume. Et c'était une sorte de veste au col Mao, mm-hmm. parce que le col était tout rond, comme celui des hauts chinois, comme les vêtements chinois au col rond, pas comme le col occidental. Et c'était donc le costume officiel qui a été imposé par l'administration zaïroise et dans le cadre de sa politique de zaïrisanisation. Oh là là.
Non, mais ça, pour ça, il faut avoir fait plusieurs années de zaïr pour arriver à dire sans problème.
En fait, il a appelé ça, il a donné un nom générique plus facile à prononcer, c'était l'authenticité africaine.
Et comme justement le pays d'ailleurs, la ville, hein, la capitale du Congo au moment où le pays est devenu Zaïre, elle ne s'est plus appelée Léopoldville. Léopold, c'était le nom du roi des Belges, hein, qui avait colonisé le Congo. Elle s'est appelée du coup Kinshasa, donc on a vu que la monnaie avait changé, le costume, puisque l'abacoste a été promu. Donc tout change, y compris le nom des gens qui doivent à l'époque rejeter leur nom chrétien, parce que on considère que les noms portent aussi les stigmates de la colonisation. Et donc, évidemment, il faut que dans ces conditions-là, le chef lui-même donne l'exemple, puisque Joseph Désiré Mobutu se rebaptise lui-même avec un nom à rallonge, et on va lui laisser le soin de se présenter lui-même.
Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du Mouvement Populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre.
Lopota monene, oya kanisaka.
tout le Congo, de gré ou de force, mais dans une dictature, on se demande bien ce qu'est vraiment le gré. En tout cas, tout le monde se met à chanter le chef suprême dans d'interminables cérémonies qui sont organisées dès qu'il se déplace quelque part dans le pays. Ça rappelle un peu la Corée du Nord, Cuba ou la Roumanie. Et c'est assez étrange d'ailleurs parce que Mobutu s'est surtout inspiré des régimes totalitaires communistes alors que son pays était soutenu financièrement, voire militairement, par l'Occident, France et États-Unis en tête. Mais l'homme qui trônait sur une peau de léopard avait besoin d'être aimé. Et comment être aimé au Congo sans passer par la musique et les chanteurs populaires? Loko Masengo a bien connu cette époque, parce qu'il a joué dans de multiples orchestres dont accouchait Kinshasa, la capitale, et fait partie aujourd'hui du groupe Kekele, qui réunit des anciens, des papas, qui pratiquent la rumba comme on l'a joué encore du temps de Mobutu.
Mobutu a compris que la culture, c'est quelque chose de très important. Il avait besoin de promouvoir sa politique et il avait besoin des griots, entre guillemets. Donc, d'où les musiciens pour chanter les louanges, pour chanter les pensées du guide, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire, il s'est inspiré des Mao. Bon, Mao aussi a utilisé les artistes et tout pour lancer sa politique. Donc, il a utilisé les artistes. Mais à l'époque, les artistes ne pensaient pas que ça allait terminer en catastrophe, parce que ça marchait très bien. En tout cas, entre nous soit dit, quand Mobutu est venu au pouvoir, quand ça a commencé, personne n'avait pensé que ça devait se terminer comme ça, parce que il a eu un discours révolutionnaire, la révolution culturelle, et tout le monde s'est mis au pas. Par exemple, donc là, on chante donc Mobutu, c'est-à-dire c'est le chef suprême. Donc c'est lui le guide, c'est le pacificateur, c'est le rédempteur même, comme on disait. Donc c'était ça. Donc des chansons pareilles, c'est ça où les jeunes ne voyaient que le guide. Ça permettait au peuple. Maintenant, on a compris. Maintenant, ça permettait au peuple de ne pas réfléchir. C'était la diversion. Parce que il était dit un jour qu'un peuple heureux est celui qui chante et qui danse, bien entendu. Mais quand il est affamé, c'est pas bon. C'est ce qui est arrivé. Le peuple ne faisait que danser, chanter le louange du guide. Entre temps, il crevait de faim. Et puis, ça donnait ce que ça donnait.
C'est terminé comment?
Dans le chaos. Dans le chaos.
Et le chaos avait bien l'air de se profiler, mais en tout cas tout le monde continuait de chanter la louange de Mobutu. Et pour les faire entendre ces louanges, il y avait une puissante institution, la RTNC, ou Radio-Télévision Nationale Congolaise. C'est un endroit stratégique à Kinshasa, comme dans toutes les grandes villes du continent, puisque c'est toujours la radio et la télé qu'on prend les premiers en cas de coup d'État. Et la RTNC, donc Radio-Télé Nationale Congolaise, c'est un immense ensemble de bâtiments vendus en 1974 par Giscard d'Estaing au Zaïre pour la coquette somme de 500 millions de francs. C'est d'ailleurs assez étonnant parce que les portes, les pancartes des studios, toute une partie du mobilier sont les mêmes qu'à la maison de la radio ici à Paris. C'est assez confondant. Alors le problème, c'est que la construction de la cité de la Voix du Zaïre, oui, parce qu'à l'époque, on appelait pas ça encore la Radio Nationale Congolaise, mais la Voix du Zaïre, hein, ce Mobutu, ça avait demandé donc beaucoup d'argent, mais ensuite, rien ou si peu avait été prévu pour l'entretenir. Donc encore un peu de la coopération d'apparat. À la Voix du Zaïre, il y a un personnage que moi j'aime particulièrement, c'est Isidore Kabongo. Aujourd'hui, il est directeur des programmes de la Radio Nationale. Et ça fait 30 ans qu'il y travaille à la radio. Et il est revenu de tout, absolument de tout, y compris de la propagande débridée à la gloire de Mobutu, qui était à la base la vocation première de cette radio.
À la radio comme à la télévision, par exemple, nous avions mis à ce qu'on appelait les slogans. Vous savez, avant les informations, nous avions des slogans. Nous avions par exemple un slogan qui disait « Un seul chef, une seule nation, un seul peuple », soit comme ça. Puis, dans les chansons, nous avions tout ce qui voulait dire que c'est le chef qui a raison. Tout avec le chef pour le bien de tous. Sans le chef, on n'est rien du tout. Donc, tout ça, c'était des slogans. Et nous avions des slogans vides, par exemple, Objectif 80. C'est-à-dire, dans les années 70, on avait fait une sorte de plan directeur qui s'appelait Objectif 80. Donc, en l'année 80, il fallait qu'on arrive à tel résultat, tel résultat, tel résultat, je ne sais pas, les routes un peu partout, et tous les enfants à l'école, ce genre d'absurdité comme ça, quoi. Mais ça s'appelait des objectifs 80. Et à la radio comme à la télévision, c'était des slogans, ils étaient passés en boucle, tout devait passer tout autour. Alors, ce qui était terrible, c'est que plus on arrivait vers l'année 80, moins il était évident que nous pouvions atteindre ces objectifs. À ce moment-là, les hommes du parti imaginaient un autre slogan, un autre qui était assis sur l'autre. Il fallait, ce n'était plus bon de parler des objectifs 80 parce que vous rappelez des choses qui n'ont pas été faites, alors vous êtes un saboteur. Donc à ce moment-là, on inventait une autre série de slogans. Bon. Alors, à la télévision, ce n'était pas pire qu'à la radio. Pire, c'est-à-dire à cause de l'image. Mais seulement à la télévision, c'est qu'il y avait des images incroyable, Mobutu qui sortait du ciel, par exemple. Mobutu qui sortait du ciel comme Dieu le Père et tout ça, qui venait et descendait vers nous pour notre salut et tout ça. C'est nous qui avons inventé ça. On ne peut pas dire que c'est Mobutu qui a inventé ça. C'est nous. C'est nous, les turiféraires. C'est en cela, nous avons aussi fait Mobutu. Ça, il faut dire que les médias ont fait Mobutu. Quand nous avons commencé à inventer les timoniers, les guides clairvoyants, le matin qu'il y avait encore quoi, les bas des voilà des
bâtonniers.
Alors il y avait tout. C'était les pharaons modernes.
Il avait un service spécial, la MOPAP, c'est-à-dire la mobilisation populaire, presse et propagande.
Presse et propagande.
Qui faisait l'affaire. Donc il y avait dans chaque région des animations, des groupes, des animations culturel, c'est le nom qu'on donnait, mais qui n'était là que pour chanter les louanges, qui chantait les actions du guide, comme on disait. Donc, c'était le culte de la personnalité en puissance 1000. Ça donnait que partout on chantait le guide, partout dans les villages, dans le don, on a déicifié une personne.
On a fait un dieu.
Un dieu. Et aujourd'hui, si je réfléchis, or, il était interdit de déificer un homme. Et je crois que c'est ça qu'il y a eu. Dieu s'est fâché, le vrai Dieu s'est fâché, et le malheur est tombé sur le peuple.
Président Mobutu, mon peuple est bâti au Potemba, Mobutu Mwana, mon peuple est bâti au Potemba. Congo, ma classe. La jeunesse est pesée en confiance.
bâti dans mon bon temps. Ma peuple bâti au mot de mer. Mon bon tour, moi, n'a ma peuple bâti au mot de mer. Désida, José, Désiré. Ma peuple bâti au mot de Congo. Président, mon bon temps. Ma peuple bâti au mot de mer. Peuple bâti au bout des mains.
Mobutu, 10 ans de Vertis et l'orchestre VV du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Et ce titre a été enregistré en 1970.
Ouais, le vinyle qu'on vous joue en ce moment, justement, lui aussi date de 1970. Ce qui explique qu'il soit un petit peu rayé, un petit peu abîmé. Donc, voilà, c'est ça que vous avez entendu au début.
Excusez-nous pour vos oreilles. Hein.
Mais ce document d'archivo. En tout cas, moi je voulais savoir, Solo, toi évidemment, tu n'étais pas au Zaïre dans les années Mobutu, tu étais en Côte d'Ivoire. Mais vous qui étiez à distance, vous en aviez quelle image de Mobutu et de son régime?
Attends, mais on n'avait que de l'admiration. Ah. Mais je devrais dire, c'était valable pour la première décennie du règne de Mobutu. Parce que l'authenticité africaine de Mobutu, elle séduisait tous les Africains. Et puis le Zaïre donnait l'image d'une Afrique grandiose. On en tient pour preuve, en fait, ce qui est particulièrement illustré, c'est ce combat du siècle organisé par Mobutu à Kinshasa en 1975 et qui a opposé George Foreman, que tous les Africains considéraient comme le noir vendu aux blancs, qui était pro-américain blanc, pro-occidental, bref, et qui était opposé à Mohamed Ali, qui, pour nous, Africains, était l'incarnation de l'identité du noir, et de la quête de l'identité des Noirs. Et Mobutu organise ce combat du siècle, retransmis par satellite dans le monde entier, dont en Afrique. Donc, pour nous, l'immensité du Zaïre s'est traduisée par cet élément-là.
C'était un truc incroyable, en plus, parce qu'il avait fait venir, avant le match, en tout cas, il y avait plein d'artistes américains qui étaient venus, James Brown était là, enfin, il y avait énormément de monde qui était présent à cet événement. Il y avait eu quelques pépins qui avaient fait que le combat avait dû être reporté, mais du coup, je crois que Mohamed Ali et George Foreman avaient passé 3 semaines à Kinshasa, et on se rappelle encore, il y a un documentaire incroyable qui raconte ça, qui s'appelle When We Were Kings, quand nous étions rois, qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire il y a quelques années.
Ah, ça, c'est pas possible.
Camp, et on entend, tu te rappelles, tout le stade qui fait
Ali Boumaïe, Ali Boumaïe.
C'est pas très pacifique, ça veut dire Ali tue-le. Oui. Enfin, tout le stade était acquis à Mohamed Ali.
Il faut pas oublier qu'on sortait, on venait de sortir des indépendances, ça faisait à peine 15 ans que la grande majorité des pays africains étaient indépendants. Donc il y avait cette espèce de haine quand même vis-à-vis de l'Occident et particulièrement des pays colonisateurs. Et Foreman qui incarnait ces pays, toute l'Afrique, surtout le Zaïre, demandait à Ali de le tuer. Et quand on voit le documentaire, on voit toute une foule, un stade rempli comme un œuf, et qui lève le poing. Ali, Boumaïe, a le geste, tu le tues, le dernier coup.
D'ailleurs, le pauvre Foreman, je ne sais pas vraiment pourquoi on lui avait collé cette étiquette, c'était plutôt parce qu'on aimait Ali et qu'il fallait qu'il ait un adversaire. Donc j'ai l'impression qu'on a décidé que c'était lui
le
représentant de l'Occident.
Ouais. Enfin, pour terminer sur l'image qu'on avait de Mobutu du Zaïre, c'est que le Zaïre, avec cette image d'Afrique grandiose, avait une monnaie puissante. Faut pas oublier que dans ce milieu des années 70, un Zaïre valait $2.
Et pardon.
Ah bah oui. Et puis progressivement, on a commencé à voir des articles dans la presse africaine, en l'occurrence Jeune Afrique, ou des tas de publications africaines, qui ont commencé à diffuser l'information sur l'assassinat de Mobutu.
Lumumba.
De Lumumba, autant pour moi. De Lumumba. Assassinat dans lequel on laissait comprendre que Mobutu était plus ou moins impliqué, quand ce n'était pas totalement dit qu'il était impliqué. Et quand donc la presse a commencé à nous diffuser ces informations, on a commencé à se dire, oulalalalala, c'est pas clair cette affaire. Ce grand monsieur avec son grand pays, c'est plutôt louche. Donc, on a commencé à remettre en question l'image de Mobutu et du Zaïre qu'on avait perçu plutôt comme un pays grandiose. Et on a donc vu aussi que c'était en fait un dictateur, puisqu'on commençait à en parler de plus en plus dans la presse. Et c'était pas ce type de dictateur éclairé comme Oufuor Boigny, parce qu'il n'y avait pas de route reliant les grandes régions du pays, il n'y avait pas de grande école à l'intérieur du pays, il n'y avait pas, nous qui étions venus faire des études en Europe, on n'a pas vu de boursiers zaïrois. En tout cas, en termes de proportion, on n'a pas vu dans les universités et les grandes écoles proportionnellement à l'image et à la richesse du Zaïre. Et d'apprendre que la richesse personnelle de Mobutu était capable de rembourser toute la dette extérieure du pays, on s'est dit, oh, mais c'est qui ce type-là? Mais il faut l'abattre, quoi.
Oui, il faut dire que Mobutu, il avait fondé le Parti État, mais le Parti État, c'était lui. Enfin, tout ça a été évidemment mélangé. En tout cas, si l'histoire, la grandeur, avec plein de guillemets, et la décadence de Mobutu vous intéresse, il y a aussi un documentaire vraiment très intéressant qui est sorti il y a quelques années au cinéma, qui s'appelle Mobutu, roi du Zaïre, du cinéaste belge Thierry Michel. Et c'est vraiment édifiant. On a d'ailleurs tiré quelques-uns des petits extraits sonores, les Mobutu, ça, tout ça, on l'a récupéré justement dans ce documentaire qui est disponible en DVD si ça vous intéresse. Voilà, je voulais voir avec toi une chose, c'est que la louange du pouvoir, là on parlait de Mobutu, mais elle a pas attendu les dictateurs modernes pour exister sur le continent.
Ah non, non, pas du tout, parce que on a largement commenté l'empire du Mandingue, d'où est issu le Djeli, communément appelé ici le griot. Et l'une des fonctions du griot en Afrique aussi, c'était, en Afrique de l'Ouest je vais dire, c'est aussi de louer le chef qui l'entretient, qui entretient le griot et sa famille. Et le Djeli s'ingénue à romancer les faits et gestes de l'homme de pouvoir et de ceux de sa famille.
Et ça, c'est une des choses qu'on oublie souvent ici, hein, parce que dès qu'il y a un chanteur africain, très souvent, les médias le catapultent comme griot, alors que bien peu d'entre eux sauraient chanter des chansons qui sont liées justement aux grandes familles de l'Empire Mandingue, par exemple. Mais cela dit, en même temps, ce personnage du griot, parce qu'il est attaché au chef, il peut aussi avoir un rôle de conseil et dire des choses qu'en général, personne n'ose dire au chef.
Ben, tout à fait. Très souvent même, nous, les Africains, on réduit un peu trop souvent le griot à son rôle de laudateur. Mais le Djeli, ou le griot si vous préférez, c'est aussi une sorte de consultant qui conseille le chef. Le Djeli est un médiateur entre le pouvoir et le peuple, entre les tribus, entre les familles, entre les individus. Le Djeli est vraiment l'alpha et l'oméga de toute transaction sociale.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, souvent, on prend du griot que la partie conseil, ou bien critique, ou bien qui a justement l'oreille des gouvernants, alors que sur le continent, on prend plutôt souvent la partie louange. Enfin, voilà, vous rassemblez les deux ensemble et on arrive à quelque chose de plus juste. Solo, on va se déplacer, si tu veux bien, jusqu'en République centrafricaine. C'est un pays dont on parle assez peu et qui se situe, si vous avez une carte sous les yeux, au nord de la République démocratique du Congo et juste au sud du Tchad. Et si vous fouillez bien dans vos souvenirs, bien qu'on en parle peu, justement, on en a pas mal parlé en 79 sous le mandat présidentiel de Giscard d'Estaing et la fameuse affaire des diamants de Bokassa.
Jean Bethel Bokassa, en fait, c'est un ancien combattant des forces françaises libres. Et à l'indépendance, il est fait chef d'état-major de Centrafrique et il prend le pouvoir en 1965. C'est la même année, d'ailleurs, que Mobutu arrive au Congo. Et comme Mobutu, au début des années 70, Jean Bethel Bokassa entre dans ce que j'appelle sa phase mégalo. Il se nomme président en vie en 1972, il se nomme maréchal en 1974, c'est à croire qu'il mène une compétition ubuesque avec Mobutu Sese Seko. Tu as dit de dire son nom en entier. Mm-hmm. Mobutu Sese Seko Kugubendu Wabazenga.
Voilà. En tout cas, l'apothéose de la mégalomanie de Bokassa, c'est en 1977 quand il se déclare empereur de Centrafrique, Bokassa Ier, évidemment suivi par toute une cohorte d'orchestres chanteurs du pays.
C'était plus de 10 heures ce matin lorsque le carrosse impérial est arrivé au palais du couronnement, accueilli par les militants du Parti unique centrafricain, le Maison. C'est d'abord le petit prince Jean Bedel Bokassa Junior, 2 ans et demi, qui pénètre dans le palais, habillé de blanc, brodé d'or, baudrier rouge, casquette. Ensuite, l'impératrice Catherine, robe longue, pailletée d'or et de rubis. Enfin, l'empereur Bokassa Ier, en aube blanche, une aube constellée de perles et d'or.
C'est le 4 décembre 77, Yves Loiseau couvrait la cérémonie, pour France Inter.
Je t'en
Par la volonté du peuple patrafricain, uni au sein du parti politique national, le mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire. Jurons et promettons. Devant l'humanité tout entière et devant l'histoire, de tout mettre en œuvre pour veiller scrupuleusement à la saine application de la Constitution de l'Empire centrafricain.
Empire, maman.
Empire, empire, contre la
France Inter, vous venez d'écouter la chanson Bokassa premier et ensuite Kotolango Akenga. Les deux chansons sont tirées d'un disque publié à l'occasion du couronnement de Jean-Bédel Bokassa premier de Centrafrique et ce disque s'appelle Hit Parade spécial couronnement.
4 décembre 77, ça c'est du titre. En tout cas, parmi l'attirail du parfait petit empereur, il y a le sceptre, le manteau de velours bordé d'hermine, vous avez entendu tout à l'heure le reporter Yves Loiseau qui décrivait tout ça, et la couronne aux 100 diamants, et nous y voilà au fameux diamant de Bokassa.
Eh oui, parce que fin 1979, le Canard Enchaîné publie un fac-similé d'une commande de l'empereur de Centrafrique datant de 1973, et c'était pour une plaquette de diamants destinée au président, enfin, pas encore président, à monsieur Valéry Giscard d'Estaing, qui était à l'époque ministre des Finances. Et là-dessus, le Giscard d'Estaing est interrogé, il a toujours démenti, mais pour le jour du couronnement de Bokassa, en tout cas, c'est-à-dire le 4 décembre 1977, Valéry Giscard d'Estaing avait tout de même envoyé son ministre de la Coopération offrir à Bokassa premier un joli sabre d'apparat.
Ah, mais c'est quelle coopération, ça? La coopération d'apparat ou quoi?
En tout cas,
alors que le pays s'enfonçait dans la crise économique, la cérémonie a quand même coûté la bagatelle de 7 milliards de francs CFA de l'époque, c'est-à-dire en gros 140 millions de nos francs à l'époque. C'était vraiment du grand n'importe quoi.
Oula, sinon là, ça, je crois que la retraite est garantie. En tout cas, Bokassa, c'est certainement le plus emblématique des délires mégalomaniques de nos dirigeants depuis les indépendances. Et tu parlais de Giscard et de ses rapports avec Bokassa. Moi, ça me rappelle en tout cas une rumeur qui courait sur les relations plus qu'intimes du président français avec la femme de l'empereur. Oui, une rumeur dont le journal, je me souviens plus exactement en tout cas, je pense que ça doit être Harakiri, qui s'était fait un écho de cette rumeur en 1978. En tout cas, l'été 1978, ou le début de l'automne, je me promenais sur les Champs-Élysées, je vois un kiosque qui met à l'affiche un journal. Et qu'est-ce que je vois? Le président Giscard d'Estaing assis à côté d'une femme, permettez-moi l'expression, nue, pour ne pas dire à poil. C'était la princesse Catherine, l'impératrice Catherine. Oui, complètement nu. Et la main de président Giscard d'Estaing posée sur ses cuisses. J'ai dit, mais les blancs là, ils sont fous. Comment on peut présenter un président assis à côté d'une femme nue? J'ai dit, moi, enfin, l'Africain, j'étais heurté. Mais en tout cas, pourquoi je raconte, j'ai ramené cette histoire, c'est que ça confirmait la rumeur persistante de la relation plus qu'intime du président Valéry Giscard d'Estaing avec l'impératrice Catherine de Bokassa Ier.
En tout cas, ça continuait et ça contribuait à alimenter la rumeur sur les Champs-Élysées. Rendez-vous compte un peu.
Un scandale.
L'Afrique enchantée, c'est grave.
Bon, Solo, c'est vrai qu'on a pris le cas en crescendo de deux dictateurs qui sont devenus ivres, voire fous de pouvoir, et qui ont effectivement poussé le culte de la personnalité et le culte de la parade dans des sphères vraiment extrêmes. Mais chez toi, en Côte d'Ivoire, il y a bien eu le Parti Unique, avec aussi un président fondateur qui est resté aussi très longtemps, c'est-à-dire 33 ans au pouvoir. Mais bon, il avait l'air quand même un peu plus raisonnable, non?
Oui. Comme on dit chez moi, on ne peut pas fermer le soleil avec la main. Et on ne peut pas couvrir le soleil avec la main. Ah, même quand on aime au fouet, jusqu'à n'en plus finir, au fouet Boigny, on ne peut pas ne pas admettre qu'il a aussi développé une sorte de culte de la personnalité. Mais avec cette précision, au fouet était tout de même un dictateur, comme nous, par la suite, on l'a appelé un dictateur éclairé. Parce que les éléments de sa mégalomanie, c'est bien entendu la fameuse basilique de Yamoussoukro, qui dit-on est plus haute, sinon aussi haute que la basilique Saint-Pierre de Rome.
Oui, non, mais je crois qu'il avait justement pris le soin que le dôme de la basilique, donc il a fait construire à Yamoussoukro, qui est un immense ouvrage monumental, soit justement légèrement plus haut que son modèle original, qui était la basilique Saint-Pierre de Rome.
Tout à fait. Il y a cette basilique. Il y a aussi, ça il faut pas l'oublier, la grande mosquée de Yamoussoukro, qu'on ne cite pas souvent. Ça fait partie des éléments illustrateurs de la mégalomanie d'Oufouad Boigny. Mais à côté de ces grandes œuvres dédiées aux religions, Oufouad a également construit des grandes écoles à travers le pays. La grande école de l'agronomie de Yamoussoukro, l'école des travaux publics. Et il a développé des voies de communication qui reliaient
toutes les régions du pays. C'est certainement le seul pays d'Afrique où on peut voyager du nord au sud, de l'est à l'ouest sur des routes bitumées. Et il voulait aussi occuper la scène internationale. C'est ainsi qu'il a poussé, soutenu la candidature de Alassane Dramane Ouattara, qu'on appelle Ado, qui est aujourd'hui président de l'opposition en Côte d'Ivoire. Il a poussé à l'installer au FMI comme sous-directeur. Il a également poussé quelqu'un comme Ben Smoro, qui était le directeur de la télévision nationale, à être le secrétaire général de l'Union nationale des télévisions, des radios et télévisions africaines. Et pour aller conquérir cette présidence, Oufuel Boigny lui a donné son avion de commandement personnel.
Son avion de commandement personnel.
Oui, avec la mallette remplie des millions.
Hey, mais toi, tu t'es mal débrouillé, tu aurais pu faire ça.
Oui. Mais voilà. En fait, tout ça, c'est pour illustrer la mégalomanie d'Oufuel Boigny.
Ouais, mégalomanie, mais donc qu'on peut quand même relativiser quand on la compare à celle de Mobutu ou bien de
Bokassa Premier,
empereur de Centrafrique, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Oufuel Boigny, qui était quand même parti unique, je le rappelle, hein, c'est quand même pas un système démocratique, ça lui a valu les louanges d'un musicien qu'on n'attendait absolument pas sur ce terrain-là, c'était Alpha Blondie.
Ouais, il faut dire que les rapports de Alpha et Oufuel, et beaucoup de mélomanes se sont interrogés, mais attends, qu'est-ce qu'il fait, il nous chante Oufuel Boigny? Ça veut dire qu'Alpha Blondie a été élevé par sa grand-mère, qui elle-même était, comment on appelle, avait intégré l'esprit d'Oufuel Boigny, parce que c'est celui qui a permis d'avoir l'indépendance, c'est celui qui s'est battu pour éliminer les travaux forcés, et il a inculqué ça dans la tête de son gamin, qui était Alpha Blondie. Et lui, en grandissant, il a grandi, il a mûri aussi avec cette image grandiose d'Oufuel Boigny, ce qui lui a fait chanter des chansons pour Oufuel Boigny, et en sorte, ça donner un léger changement à l'axe dans lequel on l'inscrivait.
Parce que c'était plutôt un rebelle. Enfin, quand il fait Brigadier Sabaré qui chante les brutalités policières, enfin, c'était plutôt quelqu'un qui chantait le monde de la rue et la révolte populaire. Donc, on n'attendait pas sur les louanges du pouvoir, lui aussi.
Et comment, un jour, subitement, soudain, tout à coup, brusquement, comme dirait un Ivoirien, on le découvre à chanter Oufuel Boigny.
Et donc après avoir chanté les rafles policières dans Brigadier Sabari, en 85, Alpha Blondie faisait allégeance à Félix Oufuel Boigny et le fait entrer au Panthéon des Rastas. Voici Dja Oufuel sur France Inter.
Just leave on Nana Boigny.
Alpha Blondie sur France Inter.
Allez Solo, la dernière étape de notre voyage aujourd'hui, ce sera la Guinée-Conakry, donc en Afrique de l'Ouest, sur la façade atlantique, dont le premier président, Ahmed Sékou Touré, s'est rendu célèbre par le nom qu'il avait répondu à De Gaulle, au nom de son pays, au moment du référendum qui avait été proposé aux colonies en 1958. Il s'agissait de savoir si les colonies voulaient rester ou non dans une communauté française, ce qui impliquait que la France gardait une bonne partie des rênes du pouvoir, ou devenir de facto indépendance, ce qui impliquait du coup l'arrêt de toute aide de la France. Et la Guinée de Sékou Touré, justement, a été le seul pays à voter non et à accéder directement à l'indépendance, ce qu'on lui fera évidemment payer très cher. Et en Guinée aussi, Solo, peut-être encore plus qu'ailleurs, la musique, c'est... Enfin, c'était, et c'est sans doute encore, une affaire d'État.
C'est resté une affaire d'État, d'abord parce que depuis l'histoire du mandat qui couvrait cette belle partie, la musique a toujours été présente dans la politique. Et Sékou Touré a développé des orchestres nationaux à travers une manifestation qu'il appelait les Biennales culturelles et artistiques de Guinée. Et pour accéder au statut d'orchestre national, il fallait gagner l'édition. Et c'est ainsi qu'on a vu apparaître de grands orchestres de grande qualité, comme le Bembea Jazz, l'orchestre de la Payotte, le Sili Authentique, Kéletigé s'est empourni, et les Amazones, un orchestre de femmes, uniquement de femmes, gendarmes, s'il te plaît.
Les femmes gendarmes, et en tout cas, ça veut dire que tous ces orchestres-là étaient nationalisés, donc ils étaient aussi, de facto, au service du pouvoir. L'implication culturelle de l'État guinéen et de son chef vont rayonner jusqu'à l'extérieur des frontières, puisqu'en 1979, le Malien Salif Keïta composait une chanson en l'honneur du chef du PDG, le Parti démocratique de Guinée. Ça s'appelle Manjou.
Keïta a composé une chanson en hommage à feu le président Sékou Touré, le premier président de la République de Guinée-Conakry. Qu'est-ce qui a inspiré cette chanson et qu'est-ce que vous dites à propos de l'homme politique qu'il était?
D'abord, quand il est venu en 1974 au Mali, c'est nous qui avons fait la fête de sa visite. Et quand il a entendu l'orchestre...
Quel orchestre?
L'orchestre Les Ambassadeurs. Il a dit aux autorités maliennes qu'il voulait cet orchestre pour le festival. Je crois que c'était en 75 ou 76, je ne sais pas. 75, qu'il voulait que l'orchestre vienne à Conakry. Quand on est parti à Conakry, il m'a décoré comme officier de l'ordre national guinéen. Après, je suis retourné au Mali, j'ai fait ce morceau en l'honneur de Sékou Touré. Mon jour a été composé entre 76 et 78, mais ça a été mis sur disque en 79. Mais je veux dire que je ne peux pas passer comme ça sur un homme politique comme ça, que l'Occident a appelé dictateur. Il a été obligé à être dictateur parce qu'il a voulu voler de ses propres ailes, parce qu'il a dit non au général de Gaulle. Non, je veux pas, je veux bien être ami avec vous, mais je veux voler de mon propre aile. Je veux pas faire rêver mon peuple avec une modernité qu'on n'a pas. On va tracer notre chemin pour pouvoir être ce que nous pouvons être après. Et ce nom-là, c'est ce mot qui lui a valu la dictature, parce que et tout de suite on lui a fermé toutes les portes. Toutes les portes et tout ce que voulait l'aider. Et comme j'ai toujours dit, l'Afrique est un gâteau partagé, chacun a sa part. Et du coup, les autres puissances n'ont pas voulu lui ouvrir les portes. Et c'est pourquoi il est devenu dictateur.
Le point de vue de Salif Keïta corrobore le fait que Sékou Touré, premier président de la Guinée-Conakry, est perçu par pas mal d'Africains ne vivant pas en Guinée. Il est perçu par ceux-là comme un symbole à cause de ce fameux nom à l'ancien colonisateur. Mais vu de Guinée, c'est quand même une autre affaire parce que Sékou Touré est quand même devenu un parano qui a fait tuer énormément d'opposants. Et dans Mandjou, Salif Keïta a rebaptisé Sékou Touré Mandjou parce que c'est le nom qui est donné à tous les descendants de maîtres du Coran. Et il est le descendant de l'Almami Samori Touré.
Qui est aussi un grand résistant à la colonisation.
Et il dit Mandjou, Kanakasi, Mandjou, ne pleure pas. Mandjou, ne pleure pas, sèche tes larmes. Et le peuple africain t'est reconnaissant pour tout ce que tu as fait en son nom. Mandjou, ne pleure pas.
Et on pourrait dire aussi la Guinée, aujourd'hui Kanakasi, la Guinée ne pleure pas parce que depuis lors, en tout cas, même si Sékou Touré n'est plus là, la Guinée est un pays qui est aujourd'hui à genoux. Allez, il faut qu'on y aille solo.
Vous demandez la route.
Il faut qu'on demande la route. Il y a Olivier Gisbert qui vient d'arriver avec nous.
Oui, non, je voulais vous inviter en fait à passer dans mon émission demain à 9h parce que je reçois un comédien sotique couilleté. Vous venez vers 9h50, dormez quand même un peu. Hein.
Bon, on va venir alors.
Il va falloir que vous rendiez l'antenne. Là. On peut continuer en même temps comme ça, il n'y a pas de problème.
Mais écoute, merci de t'être.
Alors, je me suis dit que j'allais mettre un peu le bordel dans votre émission, que vous n'avez pas hésité à le faire la dernière fois. C'est chacun son tour. Hein.
Elle a la dent. Olivia, faut qu'on remercie. Bon, on te remercie d'abord de ta visite.
Et vous venez demain.
Oui, demain. C'est promis.
Vous rendez la politesse.
Oui, c'est promis.
Et est-ce que vous aurez plus que de temps de parole que moi là à l'instant? Non, parce que je crois que Solo a déjà exigé 5 minutes. Comment on va faire là? Il faut rendre l'antenne, il y a de la pub,
demain,
tu crois, Vladimir?
Attention, mais toi aussi, tu sais bien qu'il faut que je remercie toute l'équipe.
Chers auditeurs, demandez-nous, donnez-nous la route, pardon. Olivier est venu nous mélanger les pas.
Mélanger l'esprit, attendez. Donc voilà, aujourd'hui, il y avait à la technique Pascal Baldassari et Eric Morin. Il y avait bien sûr Hortense Vol, la nièce, et attachée de production. Quoi encore? Dépêche-toi,
n'oublie pas de demander la dot pour la nièce. Ceux qui ont moins de 2 puits de pétrole, s'abstenir.
Solo, arrête avec tes affaires de patriarche. Et bien sûr, Coy Nguyen, alias notre
Coco Coy. J'espère qu'il n'y a pas de pub, sinon vous allez être très à la bourre. Hein.
Et bien, c'est Coco Coy, c'est donc le réalisateur de la
France. Coco Coy.
Allez, on y va, il est 15h là. Oh. Et...
Il est 15h sur France Inter, les informations, Céline Asselot.
Le complot terroriste déjoué en Grande-Bretagne pourrait être lié au réseau Al-Qaïda. Le ministre britannique de la Sécurité intérieure, Michael Chertoff, vient de l'indiquer. Il ajoute que le complot était dans sa phase finale. Ce matin, 21 personnes ont été interpellées. Il s'agirait des principaux membres du complot qui étaient de dimension internationale selon le gouvernement britannique. Complot qui prévoyait de faire exploser simultanément plusieurs avions en vol, des avions appartenant à des compagnies américaines et reliant Londres et les États-Unis. Pour cela, les terroristes voulaient utiliser des bombes cachées dans des bagages à main. Le complot déjoué cette nuit a mis la Grande-Bretagne et les États-Unis en alerte maximale. Le trafic aérien en Europe est très perturbé. British Airways annule tous ses vols aujourd'hui entre la Grande-Bretagne, l'Europe et la Libye. Air France n'a pas encore décidé de reprendre ses vols en direction de Londres. Et l'aéroport londonien Heathrow a suspendu la plupart de ses liaisons européennes. Le trafic de l'Eurostar, lui, est normal. Israël.